Radio.
Fosséen, coincé entre la gare et le vieux port, on n'est pas les plus à plaine. À domicile comme à l'extérieur, on sévit sur les cafards comme le bégon. Tout sort d'une ronde, Belzins Rickden. Chacun s'occupe comme il peut, à représenter le quartier, ouais, le quartier. Certains font des t-shirts, et d'autres sont champions ou chanteurs reconnus. Tout ça sort de la rue, hein, qui le crut, pas eux en tout cas. Tout sort d'une ronde, Belzins Rickden. De mon front, pas de rêve gars, une trêve d'or très peu. Les factions sont sur le qui-vive, on n'est pas à l'abri d'un sale fou. Beaucoup sont déçus, et ça cause des pleurs à l'âme que l'on ne peut oublier. Impossible aussi d'oublier ceux qui sont tombés, bons ou mauvais. On en garde un souvenir impérissable. Si un jour je deviens vieux, ce dont je doute avec la vie que je mène, j'écrirai un book sur ce quartier. Belzins. Sort d'une ronde, Belzins Rickden.
Avec le juge Gouman qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir pour, comment dire, désépaissir un peu la fumée, l'opacité, notre manque de connaissances peut-être sur ce monde de la justice.
Voilà, pas forcément manque de connaissances, mais essayer de faire peut-être mieux comprendre ce qu'on voit tous les jours sans véritablement saisir les temps et aboutissants. Hein.
Donc, on a expliqué que tu as commencé voilà par des études de droit,
exact.
Comme beaucoup de gens, que tu as choisi ensuite de te spécialiser dans le barreau pour vraiment aller à la rencontre des gens, les défendre vraiment physiquement, personnellement. Mm-hmm. Et puis, le parquet de Bruxelles auprès de qui tu as été procureur et porte-parole également.
Oui.
Dino, j'ai pas oublié, tu as posé une question.
C'est quoi la question
pas, elle n'est pas
j'en
passée.
Ai déjà une deuxième. Maintenant,
ouais,
c'est
j'imagine, mais vous avez
répondu,
aussi.
Hein, porte-parole.
Oui.
Tu n'as pas encore été invité par Guillaume Play chez les gens, ça peut l'intéresser.
C'est de voir aussi un juge comme ça.
Tu vois, le Guillaume Clay, c'est un ancien animateur radio qui a créé un média qui s'appelle Légende, sur lequel il invite plein de personnalités charismatiques, passionnantes, dont Philippe Boxeau.
Bien sûr.
Mais oui, et qu'on a eu l'honneur aussi.
On a eu l'honneur d'avoir.
On
a eu Philippe Boxeau dans.
C'est un peu le même principe. C'est la vulgarisation, c'est un mot que tu as utilisé beaucoup. C'est-à-dire mieux comprendre des choses qui sont parfois complexes.
Tout à fait, le monde des médecins légistes et toi de la justice.
Dans le monde du médecin légiste intéresse et plein d'autres domaines.
C'est marrant que tu parles de Philippe Boxeau parce que ça m'a fait penser, je vois que tu as écrit un livre, tu as co-écrit Mes plus beaux procès avec le maître Daniel Spreutels.
Exact. Et donc là, j'ai écrit ce livre il y a 3 ans maintenant avec un avocat qui est un peu mon mentor dans le métier, quoi. Si j'avais vous rêvé d'une carrière d'avocat, j'aurais certainement choisi entre guillemets la sienne, parce qu'il était à la fois, il a fait 40 ans d'affaires pénales au plus haut niveau, le grand banditisme à Mers, à Bran,
ça m'intéresserait.
L'ermite, il était l'avocat de Geneviève l'ermite. Donc
Geneviève l'ermite,
qui a tué ses 5 enfants, c'est une des pire drame, pire affaire judiciaire belge.
Mais c'est en Belgique.
C'est à Nivelles. Donc il était son avocate. Il était son avocat, pardon. Et alors il a tout un volet de, parce que j'adore le sport. Il a été avocat d'Anderlecht pendant 35 ans, énorme d'Union. Et donc il a compris. Tardivement, mais où étaient les racines bruxelloises, et donc il est retourné à l'Union.
C'est bien.
Mais ce que je veux dire, blague à part, c'est génial de pouvoir à la fois, il a connu tout le monde, il a connu Goutal, Stapie, Vanim, Merckx, donc c'est génial de pouvoir s'entretenir avec lui. Et donc j'avais effectivement fait un livre d'entretien où en fait, lorsque j'étais procureur, on se renvoyait la balle sur tous ces sujets-là, médiatisation, grand banditisme.
Comment il s'appelle ce livre? J'adorerais lire ça.
Mes plus beaux procès. La prochaine fois,
Mes plus beaux procès, coécrit avec Maître Spreutels.
Toujours disponible, j'espère. Pas de problème.
Tu échanges avec lui autour les plus beaux procès, les belles affaires. On parlait, ta question que t'as posée il y a quelques minutes, c'était donc Dino, tu poses ça au juge Gouman qui est avec nous ce soir. Une affaire qui t'a marqué en particulier, une dont tu peux nous parler évidemment.
Oui, mais si je parle de d'une affaire ou l'autre, c'est public, c'est que ça a été jugé.
Et
un juge, par exemple, ne peut pas commenter ses jugements, par exemple. Par exemple, même à l'audience, parenthèse, je peux pas commencer à dire, tiens, voilà, m'expliquer pourquoi j'ai décidé ça. Permis. C'est interdit. Vous avez bien compris que, imaginons que la personne disait qu'elle était innocente et que j'estime qu'elle est coupable. Mais vous avez bien compris que je n'ai pas partagé votre opinion, après avoir lu la décision. Et donc, voilà, je décidais telle peine. Les jurés, c'est uniquement devant la cour d'assises. Meurtre et assassinat. Il faut retenir, les jurés, jury, cour d'assises où on parlait tout à l'heure, où on refait toute l'affaire, donc les meurtres et les assassinats, 12 jurés, 3 magistrats professionnels, et ils décident entre eux.
Ok, et les jurés, ça peut être entre guillemets n'importe quel citoyen
Tu peux être appelé,
je crois. Tirer au sort.
Donc je pourrais pas me présenter c'est tiré au sort parmi toute la population.
Non, on peut pas se présenter. Faut avoir la chance. Il y en a qui ont déjà été tirés 3 fois au sort et l'autre qui non. Oui, ils sont prêts à être tous les jours.
Avec la cousine de la cousine de l'autre.
Il y a le système de récusation. C'est évidemment, c'est vraiment quelque chose d'à part.
Une profession particulière.
Non, il faut pas avoir de profession particulière. Le but initial était d'avoir un plus large panel possible. Maintenant, après, vous avez des personnes qui peuvent difficilement s'absenter une semaine, 15 jours, parfois. Le procès des attentats, ça a duré 9 mois. Donc il y a des professions qui se prêtent moins évidemment à cet exercice. Mais donc c'est tout à fait différent.
Ils ont une petite indemnité. Et ils ont de quoi se justifier à leur employeur.
Bien sûr. Par exemple, la personne qui vient devant moi, je peux aussi lui faire un petit mot comme à l'école en disant qu'elle est bien passée au tribunal.
Ah, c'est génial.
Le problème, c'est que pour l'employeur, généralement, vu les raisons pour lesquelles il passe devant moi, il s'empresse rarement de dire qu'ils sont passés dans le tribunal correctionnel et qu'ils ont du coup un demi-jour. Ils portent plus facilement pâle que de venir dire les gars, je venais pour un trafic de drogue. Mais je suis là à 14h.
Mais donc tu ne peux pas donner ton avis, tu peux pas donner la raison pour laquelle tu condamnes.
Non, je peux pas commencer à expliquer
le motif de la
je sois bien clair, j'écris, je peux pas, je donne pas une peine comme ça au hasard. Dans mon jugement, je rappelle les faits pour lesquels la personne était poursuivie.
Oui.
J'explique pourquoi j'estime qu'elle est coupable ou innocente. Si elle est innocente, ben ça c'est terminé, elle est acquittée. Si j'estime qu'elle est coupable, je dois expliquer la peine, la raison pour laquelle je donne telle peine ou telle mesure de faveur, etc. Ça, c'est motivé, expliqué, noir sur blanc. Ce que je ne peux pas faire, c'est par exemple, suite à cette audience, venir dans les médias expliquer, ah voilà, j'ai décidé ça parce que j'estimais que dans une affaire médiatisée, par exemple, ça, je peux pas faire, c'est totalement interdit. Comme à l'audience, je peux pas commencer à débattre avec la personne en disant, bah oui, mais j'aurais été sévère, bah oui, mais c'est vrai, mais il y avait ceci, etc. Donc, on ne commande pas ça. Moi non, ce qui est toujours très, toutes les affaires ont évidemment leur comment dirais-je, leur spécificité, la personnalité de du prévenu, etc. Maintenant, il y a des affaires qui reviennent de manière un peu plus fréquente. Moi, je me souviens d'une affaire un peu particulière qui m'a fort marqué, c'était d'avoir dû juger une affaire avec un enfant, un jeune enfant qui était décédé lors d'une sortie scolaire. Et les enseignants étaient poursuivis pour homicide involontaire, justement, donc entre guillemets, avoir commis un défaut de prévoyance ou de précaution, comme on dit, ça veut dire ne pas avoir surveillé, ne pas avoir toute une série de choses.
De la négligence, quoi.
De la négligence, et donc, du coup, ben voilà, c'est toujours très prenant parce que vous avez des victimes, vous avez quand même des parents qui sont là, qui vous imaginez qu'ils mettent un enfant dans le bus le matin et
il
revient par le soir, des enseignants qui n'ont pas décidé de tuer cet enfant, bien sûr, ça reste effectivement un accident, alors avec des responsabilités, et donc tout ça rend une atmosphère très lourde. Donc je vais pas commenter l'affaire, mais je peux dire que ça ce sont des décisions
marquants.
Ben oui, et des lourdement réfléchies, peser le pour et le contre, c'est pas des choses qu'on prend évidemment à la légère, parce qu'on sait que c'est qu'on passe. Il n'y aura pas vraiment de bonne décision puisque on ne pourra pas faire revenir le gamin en l'occurrence. Et donc, c'est essayer de trouver ce qu'on estime être le plus juste fonction des diverses positions qui sont prises. Mais ça, c'est quelque chose, par exemple, qui m'a marqué parce que sinon, ça sort de l'ordinaire et surtout parce que c'est d'une telle dimension émotionnelle. Pour peu qu'on ait un peu les enfants du même âge, c'est pas si évident, mais il faut avoir ce recul. Cette expérience fait que je pense qu'à 25 ans, c'est plus difficilement juger ça qu'à 50, 60. Donc c'est clair que il y a quand même ce recul là, ça aide entre guillemets à ne pas verser dans l'émotionnel ou dans le parce que voilà, il faut garder comme un avocat, hein, je dirais, un avocat qui plaide. Et il doit avoir une distance par rapport au dossier, sinon il devient fou. Si dans tous les dossiers, il prend ça comme si c'était sa propre affaire. Voilà, imaginez qu'il n'a pas le résultat obtenu, il peut se pendre tous les jours.
C'est la raison pour laquelle j'ai pas pris cette voie.
Oui, parce que Jeanne a commencé, elle a même fait un stage chez Anne Gruet.
Anne Gruet.
C'est pas mal ça. Pour les personnes qui ne voient pas, c'est la juge.
La juge d'instruction.
Anne Gruet, bien sûr.
Voilà, dans Ni juge ni soumise, qu'on aime beaucoup.
Ce film.
Allez, faut la saluer, hein, Anne, parce qu'elle a eu un petit souci de santé, j'espère non, pas rien de grave, je rassure.
Bah justement.
Mais donc voilà.
Ah bon, on te salue, Anne, bien sûr.
Oui, elle va bien.
Vraiment géniale, vraiment. Très
comme on la voit à l'écran, quoi.
Oui, elle est vraiment vraie. Enfin, c'est vraiment comme ça qu'elle.
Ah oui, ça je peux vous garantir pour la connaître quand même un petit peu depuis un bout de temps. Je peux dire que c'est pas. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on me pose souvent la question. On dit mais quand on voit la télévision, enfin, c'est quoi, c'est un peu joué, etc. C'est pas du tout vrai. Ou les gens qui sont là, enfin, il y a des comédiens. Il y a des gens qui pensent que les gens qu'on voit parfois dans les audiences, dans les émissions de télévision, c'est du fake.
Ah oui.
Et vous avez retourné combien de fois là? J'y mets non, c'est tout ça. Et c'est pas possible que des gens réagissent comme ça. C'est ça qui est amusant, c'est que. J'ai toujours dit, venez voir tous les jours, c'est ouvert. Hein, on pouvait venir voir et encore ce qu'on voit à la télévision, évidemment, c'est une toute petite partie de voilà. Quand ils viennent filmer pour des émissions de télévision,
Est-ce qu'il y a une lassitude qui se met au fur et à mesure du temps, tu vois, de voir les mêmes affaires, les mêmes histoires.
Ça fait 2 ans et demi que je suis juge, donc en soi, on peut pas dire qu'il y a encore un peu le temps, j'espère, avant que j'en sois lassé. quand on est lassé, il faut faire autre chose. Mm-hmm. C'est pas juger. Enfin, c'est tellement prenant, important. Ça demande une énergie, une concentration, mm-hmm. une réflexion. Que si c'est pour le faire comme ça, sans grand passion, moi ça m'intéresse pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est changer. Je disais là tout à l'heure, on peut par exemple dire tiens, moi j'ai une chambre de droit commun où je fais, comme je dis, un peu toutes les infractions possibles. Je peux très bien dire je vais me spécialiser, enfin je vais dans une chambre spécialisée en mœurs, une chambre spécialisée en grand banditisme. Enfin, il y a moyen de changer, un peu bousculer cette routine là en changeant pas de tribunal, mais de section.
Ouais.
Exactement ça.
Jeanne, tu avais une question?
Oui, parce que tu disais que c'était important mais que c'était chouette de pouvoir venir aussi voir, assister à une audience. Comment est-ce qu'on peut retrouver les créneaux et les affaires qui sont traitées? Peut-être que...
Il y a un calendrier,
est-ce qu'il y a un calendrier ou un programme?
C'est une très bonne question, parce que c'est clair que... Oui, en fait, il faudrait voir, notamment avec le parquet, justement, avec le service de communication, de voir si il y a moyen. Moi, j'avais commencé à l'idée d'instaurer un planning des affaires qui pourraient potentiellement intéresser le grand public. D'autre côté, c'est très réducteur. Est-ce que c'est vraiment au procureur de comme ça donner une espèce de planning de donc c'est un peu compliqué. Mais par contre, vous allez, par exemple, pour les cours d'assises, c'est plus simple, parce qu'il y a des sessions de cours d'assises. Mm-hmm. Et il suffit de penser téléphoner au greffe de la cour d'assises. Il dit tiens, voilà, quand est la prochaine session? Par exemple, il y a des écoles, beaucoup d'écoles qui viennent.
Mais c'est ça, je pense à ça.
Énormément d'écoles qui viennent.
C'est l'école de la vie. Enfin, je veux dire, là, si tu fais une journée par semaine ou par mois au tribunal, ça te change, ça te change un esprit, quoi. Tu t'es dans la réalité de la vie sur plein de sujets différents. C'est extraordinaire.
C'est vrai que pour les écoles, je trouve ça intéressant, parce que souvent les étudiants qui sont donc déjà en bachelier de droit, etc., sont obligés de suivre quelques cours d'assises. Mais je trouve que ce serait intéressant pour aussi
ça va en dissuader de se lancer dans des trucs en disant oula, j'ai peut-être pas envie d'être oui. Du coup là t'es dans la
oui, il faudrait le gros pour l'instant vraiment quand je vois les jeunes, c'est vraiment il faut mettre les moyens là-dessus. C'est le nombre d'affaires de plus en plus graves qui concernent les délinquances.
On a vu hier justement
à Paris,
deux
coups de couteau,
Elias, 14 ans, qui
tué d'un coup de couteau par des mineurs.
Oui, pour un téléphone.
Regardez le mineur qui voulait commettre un attentat, il avait 14 ans, dans la mosquée la semaine passée. Je veux dire, il y a des braqueurs, il y a des tresques qui viennent avec des armes de poing dans des librairies pour braquer 300 balles. Enfin,
mais je pense que c'est aussi
ça. C'est vraiment, je pense, il faut avoir une réflexion globale, mais mettre les moyens, parce qu'on parle de l'avenir d'une société. C'est pas des gens qui passent ici, qui reviennent, qui partent. C'est l'avenir de notre société, de la Belgique, de Bruxelles, parce qu'on est à Bruxelles.
Oui. Pour faire de l'éducation, mais c'est déjà pour ça qu'on fait cette émission.
Oui, mais voilà.
Dans les écoles, c'est vrai qu'il faudrait...
Il faut véritablement ça, le harcèlement scolaire. Il y a toute une série de choses actuellement qui peuvent faire des ravages. Et je pense que les jeunes, ben voilà, certains âges-là, vous le disiez, c'est 14, 15, 16 ans, c'est là qu'il faut agir. Ouais. À 30 ans, le gars qui a choisi d'être, comme j'ai toujours, parce que là, chacun fait ses choix. Vous avez été arrêté 10 fois, vous avez déjà fait, parfois, il y a des gens qui comparaissent devant moi, qui ont déjà fait 120 mois de prison,
Ouais.
J'ai dit, bon, je vais pas lui faire la morale à ce gars-là. Enfin, je vais lui dire, voilà, vous avez été fait attraper, en gros, vous savez, vous
jouez, choisi quoi.
Vous gagnez, de temps en temps, vous perdez, enfin, voilà, vous avez choisi votre vie.
Tu as déjà été confronté, justement, au tribunal de la jeunesse, à des jeunes, alors, mineurs?
Moi, honnêtement, émotionnellement, j'aurais très difficile à le faire. Et j'ai beaucoup d'admiration pour les collègues qui le font, parce que vous êtes confrontés à un mélange de trucs terribles, puisque ça on parle quand même
de misère, tu veux dire.
Déjà, on a tout ce qu'ils appellent les mineurs en danger, fameux placements dans des institutions, la DAS comme on l'appelle en France.
Oui, des cas d'inceste, des choses comme ça.
Oui, et surtout le fait que vous avez des jeunes qui sont vraiment paumés, qui sont dans des situations où on leur est presque envie d'en prendre 4-5 chez soi en sortant de son bureau. Enfin, ce n'est pas possible. Donc, je veux dire, en soi, on a ça, plus les mineurs délinquants qui commettent des faits très graves, et parfois, on n'a pas les moyens. On a encore discuté, une interview là-dessus ce matin, on n'a pas les moyens, à l'heure actuelle, de répondre adéquatement à ce type de délinquance, parce qu'il n'y a pas plus de place dans les IPPJ. Donc ouais, faut dire à un jeune qui vient de commettre un viol en réunion, une tournante si vous préférez, de dire ben voilà, il faudrait effectivement, c'est très grave ce que tu as fait, mais on te rappellera dans 4 mois quand on a une place éducative dans un milieu fermé. Enfin, ouais, on en est là, et quand on évoque ça, on nous répond oui, mais enfin il y a d'autres mesures potentielles à... Oui, d'accord.
Des
mais...
travaux d'intérêt général.
Oui, d'accord. Oui.
Est-ce que le bracelet électronique...
on l'a déjà fait avant.
Oui, ça ne fonctionne pas.
C'est qu'à un moment quand il a déjà fugué 5-6 fois d'une IPPJ ouverte, comme on dit dans un internat, on va dire ouvert, les grilles sont ouvertes, ils vont y viennent.
Ah oui.
Et bon, voilà, si les mecs ils sont en dehors de cela et ils veulent pas voilà, il y a un moment il faudrait quand même un cadre plus contraignant.
Ça peut venir de où, en fait? C'est qui peut...
Ouais, là, c'est actuellement, c'est la ministre de l'aide à la jeunesse en communauté française. Ça, c'est une matière qui est, communautarisée. Donc, ça veut dire, c'est les communautés qui sont en charge des compétences. Et c'est ces personnes-là qui doivent prendre des mesures, mais de manière plus globale, hein. Je ne mise pas une personne, il faudrait réfléchir plus globalement.
Il faut de l'argent aussi.
Il faut de l'argent. Il faut des places, il faut créer les conditions pour qu'on puisse faire quelque chose. Et je pense que si on veut parler d'avenir, ou croire un minimum en l'avenir, il faut un peu investir dans
l'éducation aussi. En amont du placement.
Les éducateurs, les centres, les parents, vous savez, il y a des parents, on l'a dit, je termine par là, qui disent, on l'a arrêté pour votre fille. Oui, mais c'est, qui reste bien chez vous. Parce que nous, on n'en veut plus à la maison. Oui, d'accord, mais enfin, à 13 ans.
Oui.
On sait plus quoi faire avec. D'accord. Mais c'est quand même vous êtes responsable voilà. Donc, et vous percevez d'ailleurs des allocations familiales pour éduquer et éduquer votre enfant. Donc, il y a un minimum de
responsabilité,
C'est contradictoire ce que je vais dire parce que c'est ça, je crois, tout le nœud du débat, c'est que la justice en Occident, elle est trop humaniste, en fait. Et en même temps, c'est bien, parce que, c'est-à-dire qu'on comprend, on tolère, alors qu'en fait, c'est pas le rôle de la justice. Voilà, tu en parlais tout à l'heure. Ton rôle à toi, c'est pas de tolérer. Moi, je dois être tolérant par rapport aux autres. Mais toi, en tant que juge, tu es là pour faire appliquer la loi. Tu peux pas faire l'émotionnel et le... juste ce que je veux dire, en une phrase, je trouve que la justice, c'est dur, mais elle devrait être plus dure. Parce que si la justice était vraiment dure, il y aurait moins de... C'est parce qu'elle est humaniste et d'une certaine manière douce, et peut-être tant mieux. En même temps, c'est plus gérable.
Eh ben, écoute, c'est une très très bonne question, Dino.
Tu dis toujours, tu vas pas reparler après, donc on clôture.
Elle veut faire un teasing.
Écoute, il y a Kavinsky et Angèle qui sont là, qui frappent à la porte. Ils veulent absolument qu'on écoute Nicole encore une fois.
Ils sont où?
Ils sont là, regarde. Ça va, Angèle? Ça va, Kavinsky? Ils sont pas mal, hein.
Ils sont beaux.
Ils sont pas mal. Elle a sa petite tenue noire.
Et son petit chien.
Elle a son petit chien. Elle a Pépé.
Alors c'est elle.
Elle est là. On va s'écouter ça. On va répondre à cette question parce que évidemment, Dino.
Oui, c'est intéressant.
C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que la justice est trop laxiste? Est-ce qu'elle devient de plus en plus laxiste? Ou est-ce qu'elle se durcit sur certains points et s'ouvre sur d'autres en fonction de la société qui évolue sur certaines idées? Tu parlais des violences conjugales là tout à l'heure, Denis. On sait qu'il y a 20-30 ans, c'était beaucoup plus... il se passait pas grand-chose. Aujourd'hui...
On peut voir comment est-ce qu'on traite ça. Hein,
absolument. Je vous rappelle le numéro de WhatsApp, pour venir discuter avec nous, poser vos questions au juge Gouman qui est avec nous ce soir. 0478-425-425. Kavinsky et Angèle ont bien noté le numéro, en tout cas, tout de suite.
Ici, c'est Fun. Fun Radio. A wasted dream, so colorful, a heart of gold, a beat in the dark, a falling high, a soul so heavy.
Radio.
Billion rays within your sun. Standing in the wind, I'm in.
And I know that's true. I know our stars were meant to align. And I know that's true.
À 23h, Larabelle Rose and Friends sur Fun Radio.
Toujours avec vous jusqu'à 23h, hein. On commence cette semaine pas mal sous de bons auspices, puisqu'on en apprend de plus en plus sur le monde judiciaire, sur le monde du juge Gouman qui est là avec nous, qui est notre invité ce soir. Vous êtes nombreux à réagir sur WhatsApp, je vous rappelle encore le numéro, c'est le 0478 425 425 sur WhatsApp. Polo qui pose une petite question. Question pour monsieur le juge, comment savoir si quelqu'un qui a bien fait de choisir ses études supérieures en droit, quand on vient de voir qu'il a raté tous ses examens en première session, en première année?
Eh bien écoutez, tout l'avenir est devant lui, parce que vous savez, moi comme je disais tout à l'heure, j'ai fait quelques sessions.
C'est vrai, oui, tu l'as dit, oui.
Non, ce que je veux dire, c'est que, vous savez, alors évidemment,
en droit, apparemment.
Oui, en première année, il faut découvrir l'université. C'est tout à fait un monde à part. On n'est pas préparé à ça, véritablement. Donc, il faut vraiment, on est en janvier. Voilà, il faut pas s'alarmer. Maintenant, la seule chose, c'est qu'il faut être motivé. C'est ça la question. Si c'est pour choisir des études comme ça et attendre que ça passe, ça, effectivement, ça n'ira pas. Mais très clairement, s'il est motivé et si il y a cette volonté de d'y arriver, je suis persuadé que qu'il aura les moyens. Il faut se donner un peu le temps. C'est un peu classique. On dit souvent que c'est quand même fort basé sur la mémoire, mais le droit à l'université est quand même effectivement. Voilà, donc il faut aussi le temps d'appréhender la matière. J'ai rarement réussi, pas en dernière année, en première session. Donc, je veux dire, c'est pas un obstacle.
Un gage de non-réussite, regardez.
Non, voilà, il faut, comme dans toutes les études, il faut, mais je pense qu'il faut surtout être motivé, avoir envie de le faire.
Oui.
Et alors, ils se donnaient les moyens de ses ambitions. Et commencer à appréhender un peu la vie universitaire, ce qui est pas évident quand on vient de n'importe quelle école secondaire.
Mm-hmm. Ah, c'est un bon conseil, surtout de la part pas de n'importe qui, puisqu'on rappelle, hein. Tu as commencé comme avocat au barreau.
Oui.
Ensuite, tu es devenu substitut du procureur du roi et puis porte-parole du parquet de Bruxelles. On n'a pas dit que tu étais conseiller au cabinet du ministre de la Justice.
Oui, on va pas.
Attends, c'est énorme.
Non, j'ai fait ça pendant 2 ans. Enfin, oui, 20 mois, quasi 2 ans.
Et puis,
c'était très intéressant de voir un peu l'arrière-boutique, entre guillemets.
Que tu as coécrit un livre qui s'appelle « Mes plus beaux procès » avec Maître Sprottels, très intéressant. Tu es aussi, évidemment, ça c'est ce que tout le monde aussi sait de toi, c'est que tu es chroniqueur judiciaire dans Face au juge.
Enfin, pas chroniqueur judiciaire, on me filme en train de juger, hein, donc je suis...
Ah oui, donc, okay, d'accord.
Je suis pas chroniqueur judiciaire, mais on voit effectivement à l'audience. Donc,
on te ça. Voit en audience, voilà. Dans cette émission qui cartonne. Et d'ailleurs, Johnny, qui nous envoie un message sur WhatsApp, dit, c'est mon émission préférée, trop cool que le juge soit là. Tu nous régales.
Merci Johnny.
Merci Johnny. Et puis, hors sujet, mais tu as parlé de ta passion pour le sport. Laurent, qui est à l'écoute, nous dit que tu es un très bon joueur de paddle.
Ah, c'est gentil,
c'est
ça.
C'est réel, ça?
Très bon, j'irai pas, mais je me débrouille un peu, quoi. J'ai commencé à jouer assez tôt par rapport à maintenant, c'est vraiment très tout le monde joue au paddle aujourd'hui. Et tant mieux, d'ailleurs, parce que du coup, il y a des terrains partout. Moi, j'ai commencé, il y avait genre 3 terrains à Bruxelles, et tout le monde se battait le jour d'ouverture de location pour pouvoir arriver à avoir le terrain. Je parle de ça avant le Covid. Et donc là, j'ai commencé en 2018, 2019. 2019, donc et là c'est un peu moins connu, donc du coup j'ai un peu quelques mois d'avance par rapport à tous ceux qui se sont mis plus tard.
On va revenir là maintenant à la question de Dino. Oui. T'as oublié.
Non mais je croyais qu'il y avait une musique, comme j'avais pas mon casque.
Il y a la musique de.
Non mais oui, mais c'est une question, mais c'est un vaste débat, mais c'est compliqué. C'est que voilà, c'est vrai qu'en fait, bon, en gros, ce que j'estime, c'est que nous, notre rôle en tant qu'humain, c'est d'être tolérant et de tolérer, de dire ah ben voilà, il a commis tel crime parce que sa maman était méchante quand il était jeune, son papa.
D'avoir bon. De la compassion, tu
en
veux
fait,
dire.
C'est toujours ça. Le problème, c'est quand tu regardes fait entrer l'accusé. En gros, le gars, il a violé 3 gonzesses, il a tué 2 personnes. Ben en fait, c'est pas de sa faute, c'est lui la victime parce que son père était méchant, sa grand-mère. Bon, c'est le rôle des avocats. De dire c'est pas de sa faute, c'est parce qu'il a, mais bon, voilà, c'est ça l'humanisme en fait. Donc moi je crois que nous, notre rôle en tant qu'humain, c'est d'être comme ça, mais le rôle d'un juge, lui il a pas à être comme ça, il peut pas être tolérant, et lui il doit appliquer une loi, il doit l'appliquer comme elle est. Et c'est vrai qu'il y a des pays dans lesquels la loi est plus dure, la police est plus dure, et les gens se tiennent mieux.
Ça, c'est une bonne question.
Est-ce chez que... nous, on est humaniste, et bah, puis finalement, on est débordé, quoi. Dans les IPPJ, il y a plus de, personne n'en a rien à foutre, ni de la police, ni de la justice. C'est un énorme problème.
Alors, je
permets. Et en même temps, c'est bien.
J'entends, c'est un discours qu'on entend, régulièrement. Parfois, on nous dit d'ailleurs, enfin, il y a de tout, hein. Parfois, on nous dit qu'on est trop parfois, on nous dit qu'on est trop bisounours. Parfois, on nous dit qu'on ne l'est pas assez. Donc, voilà. Mais en soi, premièrement, comment est-ce qu'on décide d'une sanction? Il faut dire à l'excès de l'ex, un peu, c'est ce que c'est, hein, la loi est dure, mais c'est la loi. Ouais. Mais la loi précise, justement, que dans une fourchette dans les peines, justement. Et quand tu dis ben voilà, il faut appliquer la loi, mais la loi elle est très large. Mm-hmm. Je peux prononcer une peine, comme je disais tout à l'heure, pour un voleur de pommes dans un supermarché, je peux prononcer une peine qui va pas prononcer de peine du tout et dire c'est voilà, en gros c'est pas bien, il faut plus recommencer,
ouais.
Jusqu'à 5 ans de prison ferme. Mm-hmm. Ce que je veux dire, c'est que en soi, quand tu dis ben le juge est là pour appliquer la loi ordre des émotions, ok, mais la fourchette est très large, voilà. Et donc comment est-ce qu'on fait, et c'est important, je pense que tous les auditeurs doivent aussi le comprendre, parce qu'on entend souvent ce type de réflexion, et peut-être parfois à raison. Moi-même je peux aussi me dire tiens une décision que j'entends en Belgique, ailleurs, je dis tiens, ça me semble très peu sévère pour un cas que j'estime grave, mais il faut prendre le dossier, et c'est toujours très compliqué, tant qu'on n'a pas le dossier sous les yeux, de pouvoir donner un juste commentaire, parce qu'il faut d'abord lire le dossier. Comment est-ce que je fais justement pour prendre une décision? Il y a un dossier qui m'arrive devant moi. Je lis le dossier. Et puis, je me fais déjà une petite idée, évidemment, de la nature des faits, de la culpabilité, etc. Mais, il se passe ce qu'on appelle l'audience, à laquelle le prévenu, la personne accusée, vient et s'explique. Et ça rentre en ligne de compte, pas pour dire il est malheureux, et évidemment forcément tous ceux qui commettent a priori une infraction dans certains domaines, la plupart en tout cas, ne viennent pas des milieux les plus favorisés où ils ont plus de chance, et où finalement voilà. Donc ça, on est clair que pour toute une série de délinquants, je ne parle pas forcément de toutes, mais pour toute une série de délinquants, notamment des vols, etc., probablement les personnes qui sont de milieux plus défavorisés. Mais c'est pas pour autant que, comme tu dis, il faut tout permettre, parce que sinon, c'est plus nécessaire de mettre des caisses, des serrures, des trucs, tout le monde se sert comme il veut. Donc c'est ce que j'essaie de faire comprendre aussi, c'est de voir quel est l'état d'esprit de la personne. Est-ce que cette personne est à son premier fait et qu'elle éprouve et qu'elle explique son acte d'une certaine façon, où j'ai le sentiment qu'elle a compris qu'elle
regrette,
même pas qu'elle, oui, parce que mais regretter, comme je dis toujours, oui, mais regretter, tout le monde regrette, mais peut-être regrette d'avoir été arrêté, enfin je veux dire regretter c'est facile, mais qu'est-ce qu'on regrette,
parce que quand la personne pleure, ce que je veux dire, en général elle pleure plus sur son propre sort,
donc en soi regretter c'est toujours facile, mais c'est de voir tiens, mais qu'est-ce que vous avez mis en place. On parle par exemple de, on parlait tout à l'heure, on peut faire le lien entre les violences intrafamiliales, quand même toute une série de dossiers qui arrivent, quid de l'état d'esprit de la personne, c'est très large. Je peux très bien dire, il s'est passé un acte isolé, et vous allez suivre toute une série de mesures pour pouvoir éviter que ça se reproduise, et vous n'aurez pas de peine effective, comme je peux prononcer 2 ans de prison ferme, parce que le type me dit, Ben moi, non, ben, madame, elle est tombée, moi j'ai pas touché, hein, j'étais même pas là. Oui, mais madame a un certificat médical, madame a des photos. Alors oui, mais moi non, oui, je l'ai vue, mais elle est tombée dans l'escalier. Ou elle s'est fait ça toute seule.
Elle fait ça toute seule.
Elle est en déni total. Alors évidemment, ça peut être l'expression du rejet de ce qu'elle a fait, etc. Mais n'empêche que ça me met pas spécialement en confiance pour pouvoir me dire, ben, est-ce qu'il va pas recommencer ce gars-là? Parce que s'il m'invente un truc totalement dénué de fondement, ça veut dire qu'il n'a rien compris. Qu'il dit que moi j'ai pas de problème, c'est madame en fait.
Donc je dis,
il y a un problème. Et donc là, je risque d'aller évidemment vers les peines. Comme ça, j'explique pourquoi aller dans des fourchettes. Je vais aller gérer une peine qui sera beaucoup plus
dure,
parce que je veux qu'il y ait un signal fort pour la personne pour dire oui. Mais je me prends ça, voilà.
Mais j'imagine que la plupart des gens sont quand même au courant qu'il faut justement montrer un petit peu cette empathie, que les personnes ont des avocats qui peuvent aussi leur expliquer la manière.
Exact. Et alors, donc là, celle-là, effectivement, on va me dire, oui, mais on peut très bien tenir un discours arrangé l'audience et pour, entre guillemets, entuber le juge et puis sortir en disant, bon, maintenant, je m'en fous, je continue. C'est pour ça que une question que je pose régulièrement, c'est de dire, oui, très bien, vous êtes en aveu, etc. Vous regrettez, c'est une erreur de parcours. Mais du coup, qu'est-ce que vous avez mis en place depuis un an, 6 mois, hein, entre les faits et le jour où il comparaît devant moi, pour aller mieux,
pour remédier
à votre problème. Parce qu'il y a plus personne qui dit, oui, mais moi j'avais trop bu, etc. Bon, vous buvez, mais alors qu'est-ce que vous avez fait? Une cure contre le problème d'alcool? Mais j'ai un problème psychologique, j'étais pas bien, etc. Mais vous avez été voir un psy? Ah non, là c'est déjà un indice comme quoi le gars, il dit ça, mais il n'a pas vraiment pris la mesure de la gravité des choses. Et donc, à ce moment-là, il y a encore d'autres mesures, peut-être un peu intermédiaires à prendre pour se dire, attention, il faut que j'ai encore ce gars-là un peu entre guillemets, avec une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, parce que si le gars, en fait, il sait les belles paroles qui me sert et qu'en soi, il s'en fout... je vais peut-être pas le mettre en prison immédiatement, mais je vais prononcer une peine de prison au-dessus de sa tête avec toute une série de mesures qu'il doit suivre, et s'il ne suit pas, il va en taule. Et donc en soi, c'est ça le il faut chaque fois modaliser. C'est pas question de dire il faut pas faire. Je pense c'est pas faut faire la distinction entre l'émotionnel, l'humain et la justice. Parce qu'en fait c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est qu'on a des faits, on a une possibilité, un panel de dispositions à notre disposition, et en fonction de toute une série de paramètres, on essaie de prendre la décision qui est la plus constructive pour la société, pas que pour la personne la plus favorable au prévenu, mais pour la victime. Parfois les victimes disent, mais moi en fait ce que je veux c'est que monsieur se soigne, j'ai pas envie que
il aille en prison.
Je veux qu'il soigne. Donc c'est une sorte d'équilibre des intérêts entre la société et chaque juge, je terminerai par là, chaque juge, si vous voulez, met le curseur en fonction de sa propre vision des choses. Ça reste humain.
Mais les prisons sont quand même un peu surchargées en ce moment.
Et alors le problème, exactement, et ça va, vous me dites, bah oui, il faut mettre plus de gens en prison peut-être, parce qu'au moins ils comprendront.
Ça coûte cher à la société.
Oui, mais c'est pas toujours oui.
Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on
faut tuer plus de gens.
Regardez aux États-Unis. Est-ce que vous estimez que les États-Unis, par exemple, est une société beaucoup plus moins violente que la nôtre?
Non, je plaisantais, mais je
faisais le parallèle avec elle par rapport à l'éducation des parents, par exemple. C'est vrai qu'aujourd'hui, une éducation à la dure, chez nous en Occident, ça nous paraît waouh, comment il éduque, c'est dur. Quand on regarde ça d'un point de vue extérieur, on a l'impression que les éducations à la dure, c'est quelque chose de très mal. Alors que moi, je pense que ça peut être quelque chose de très bien. Moi, j'ai eu une éducation à la douce, peut-être qu'une éducation à la dure,
mais
ça m'aurait été bénéfique.
Oui, c'est vrai.
C'est-à-dire quelque chose qui semble dur.
Par exemple, je vais vous donner un exemple.
Ici, par exemple, en Belgique, tu donnes une gifle à ton enfant, tu es considéré presque comme un violeur d'enfant, entre guillemets. C'est-à-dire que t'as fait un truc de fou. Et puis, parfois, une bonne gifle, ça fait du bien. Il y a eu des époques où une bonne gifle, ça faisait du bien. Alors, je dis pas qu'il y a
des évolutions.
Je dis simplement que
c'est intéressant parce que
je veux pas faire le débat là-dessus.
Mais c'est intéressant.
Parce que c'est vraiment le plus proche des familles.
Ce que je veux dire, c'est que parfois, nous, les humains, on a besoin d'un truc très cadré et qui très dur.
Il manque de cadre.
Et que parfois ça fait du bien, et qu'aujourd'hui l'entièreté de une grosse partie de la société occidentale lutte pour que ce ne soit plus dur, ce qui est bon parce que c'est humaniste. Mais quelque part, est-ce que ça donne des bons résultats? Mmh. Moi, je comprends.
C'est une bonne question.
Mais c'est tout un débat de société.
Je comprends les deux, en fait.
Mais moi, je ne dis pas que ce que vous dites là est totalement dénué de fondement. Mais il faut quand même se dire que où est-ce qu'on met la frontière alors entre un père qui, au moment où son fils dépasse ses bornes, lui donne une claque pour lui dire maintenant, c'est fini, etc. Mmh. Et il y a un père qui, en fait, fait ça tous les jours. Et qui dira, mais oui, mais moi, c'est parce que mon fils, moi, je veux l'éduquer à la dure. Donc, c'est ça la complexité de la chose. Et effectivement, l'évolution de la société ou de notre société fait que on va vers d'autres méthodes que ce qu'on employait il y a 30 ans, 40 ans, même 50 ans. Moi, j'étais à l'école, je me souviens d'avoir vu des instituteurs frapper des élèves, par exemple. Et j'étais pas dans une école, anglaise comme on voit dans les séries des années 30 ou 40, mais j'ai vu des instituteurs donner des claques.
Ce serait
totalement impensable aujourd'hui. Mais je ne me lâche pas le jugement de valeur, parce que encore une fois, je suis pas là pour faire ce débat-là. Moi, je suis là pour appliquer la loi et voir si. Mais il est clair que
la loi est plus laxiste maintenant ou plus coercitive?
La loi n'a pas véritablement changé. La question qui se pose, c'est aussi voir ce qu'on veut. Vous avez toute une série de personnes aujourd'hui qui disent, à raison ou à tort, qu'il faut être plus sévère. Les juges sont trop laxistes, sont trop... Ok, très bien, on va exécuter les courtes peines. Moi, j'étais... et je parle uniquement personnellement ici, j'étais en faveur, contrairement à certains de mes collègues, à l'exécution des courtes peines, enfin des peines de prison. Si on vous donne un an, avec la possibilité d'avoir une remise de peine, mais si on vous donne un an, il faut au moins qu'il y ait quelque chose, sinon à quoi ça sert de donner une peine de 2 ans de prison et qu'en gros la personne sortait en dansant la bamba, parce qu'en gros elle dit, ah, c'est génial, j'ai que 2 ans et en gros je vais pas en prison. À quoi ça sert de faire ça? Ça n'a plus de sens.
Oui, donc justement, que donc, maintenant, si la peine.
Donc c'est ce que je vous explique. Ouais. Donc en fait, on va vers plus de cohérence. On va exécuter donc un retour plutôt à une justice plus ferme. On va exécuter les courtes peines. On fait ça pendant 6 mois. Aujourd'hui, il y a les prisons sont tellement débordées que maintenant on nous dit que les peines en dessous de 5 ans pendant tout un temps ne seront pas exécutées. Vous imaginez le signal en dessous de 5 ans de prison. Et donc en fait les personnes qui vous disent à la fois les responsables qui vous disent à la fois il faut être plus sévère, il faut mettre plus de gens en prison, ne créent pas les conditions pour pouvoir le faire. Mm-hmm. Et donc c'est ça qui est très frustrant et un peu ingrat entre guillemets pour nous qui sommes sur le terrain, c'est de dire OK, mais qu'est-ce que je dois faire? Ok, il faut aller faire des mesures alternatives, plus constructives, parce que sous ces prisons, si c'est pour éviter le risque de récidive, mais si vous voulez éviter le risque de récidive, c'est que vous allez vous mettre dans... S'il n'y a pas d'accompagnement dans les prisons, la personne va sortir au même niveau qu'elle n'est entrée, voire pire, puisqu'elle aura côtoyé toute une série de gens.
On dit toujours, c'est l'école du crime. C'est vrai que la seule sanction, en fait, qu'on ait... C'est quand même la prison. C'est peut-être ça le problème.
Oui,
oui, alors des fois, c'est des heures d'arrêt généraux, pourquoi pas? C'est bien
aussi. La loi nous oblige...
peut-être varier les sanctions, en fait.
La loi nous oblige aujourd'hui à envisager des mesures alternatives à la prison en priorité.
Est-ce que le bracelet électronique est d'application?
Oui. Mais le bracelet électronique, c'est très bien, mais imaginez un type qui commet des escroqueries sur Internet.
Oui.
Vous mettez sur... Mais il y en a plein, hein.
C'est con.
Ou un trafiquant de drogue. Oui. Le mec, il peut gérer son business par la maison, hein. Donc,
même de la prison, d'ailleurs, aussi.
Et même certains de la prison. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Il y a des choses qui doivent aussi s'apprécier à la lumière de l'infraction commise. Et donc, ce que je veux dire, c'est que... Il faut un moment qu'il y ait une certaine cohérence et que il faut se donner les moyens de ses ambitions. C'est pour ça qu'on dit toujours les gens, tout le monde critique, il y a pas d'argent, mais tous les services publics, hein, je connais pas un service public qui dit aujourd'hui, ah oui, on est mieux aujourd'hui qu'hier. Mm-hmm. Tout le monde dit les enseignants, l'hôpital,
la justice,
la police. Je veux dire, tout le monde dit, ben, les gars, ça va pas. Et le problème, c'est ça. Ça reste toujours c'est le pognon. Mm-hmm. Et si on n'a pas d'argent, comment est-ce que vous voulez investir? Mais le problème, c'est que, tout en ne donnant pas d'argent, on demande et on distribue, entre guillemets, les bons, les mauvais points. On dit, il faut faire ceci, il faut faire cela. D'accord. Mais donnez-nous les moyens pour le faire.
Est-ce que la justice dépend de l'État ou,
Le budget, oui.
Oui.
Ben, disons, le ministre de la Justice doit, obtenir un budget pour son... Ben là, on va voir les négociations, c'est intéressant, parce qu'on est en pleine négociation fédérale au niveau de la... De toutes les compétences fédérales pour le gouvernement qui devrait un jour arriver. Et donc la question, c'est de dire, ben voilà, quelle serait par exemple l'ambition de la justice, le budget qui sera alloué pendant 4 ans ou 5 ans à la justice. Et puis, au niveau de ce budget, il faut encore le répartir. Parce que les prisons sont, on a besoin de plus d'argent pour les prisons. On a besoin de plus de juges. On a besoin, de plus de, au niveau de la sûreté de l'État, peut-être. Parce que, on sait jamais ce qui peut se passer. Donc, si on veut vraiment agir le fléau du trafic de drogue et entre quand j'ai débuté, vous avez gentillesse de, après chaque pause pub, de me faire mon cri comme vité. Mais ça fait 20 ans, Jacques, je suis dans
le
job. Ça fait 20 ans, j'ai commencé en 2005. Donc, vous pouvez pas imaginer, je veux dire, au niveau de la drogue, comment ça a évolué, je veux dire, au niveau de l'ampleur que ça a pu prendre, le business, tous les anciens braqueurs sont reconvertis là-dedans parce que on gagne plus d'argent, a priori, on prend moins de risques. Donc, en soi.
Et puis maintenant, il existe tellement de plateformes.
Et la technologie fait qu'en soi, voilà. Donc, tout ça fait qu'en gros, c'est à coup de milliards qu'il faut lutter si on veut se mettre au niveau des organisations criminelles et des mafias. Vous imaginez pas le nombre de... Enfin, il suffit de voir le fameux dossier SkyCC, vous avez peut-être entendu parler, où ça a amené, mais on a vu des choses gigantesques, je veux dire, via le port d'Anvers, il y a d'autres trucs. Enfin, ça draine une quantité énorme d'argent. Et donc, à partir du moment où ces organisations mafieuses et criminelles disposent d'un tel argent... Comment est-ce que vous voulez lutter si quand vous avez en face de vous, c'est comme si c'est la Louvière qui affronte le Real Madrid, je veux dire au niveau du budget, on peut comprendre qu'ils vont avoir du mal à faire un résultat. Enfin, je veux dire, je prends deux clubs au hasard, hein, j'ai rien contre là où. Qu'est-ce que vous voulez? On sait si on sait pas jouer en Champions League, si on a les moyens d'un club de D2.
On va parler des solutions potentielles, puisque en parlant d'argent, de moyens et de sanctions, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'on va se faire une petite page de pub et on va s'écouter Lady Gaga This Is. On se retrouve juste derrière pour la suite et la clôture d'émission avec toi, Denis.
Avec plaisir, un grand merci encore. Mais je reste encore quelques minutes.
Mais avec plaisir.
Ça va? À tout de suite.
Ici, c'est Fun. Fun Radio.
J'ai des idées insensées, ouais. Reste concentré, mon terrain. Je vais fouiller dans tes pensées, ouais. Boîte automatique séquentielle, dans la poche un arc-en-ciel. Un regard en séquence, ouais. On récolte ce qu'on sème.
Où es-tu? Je ne te vois pas. Où es-tu? Je ne t'entends pas. Où es-tu? Je ne te vois pas.
Ce qui me dérange, c'est pas ton ego, mais quand ça parle du dinero, là tu
c'est pas ton ego, mais quand y aller, je suis ton bébé. Je veux continuer, mais t'es pas réglo. C'est moi que tu aimes ou bien moi CB. Au fond de moi, j'ai peur d'en faire trop et qu'on trahisse ma confiance après. J'ai déjà pris le risque, mais tu fais mal, je veux plus aimer puis détester. Je t'aurais pas donné ma confiance si tu la méritais pas. Je t'ai vu, j'y croyais dès le début. J'ai tout fait pour rien briser. À la fin, mon cœur a pris les éclats. Mon âme est mal, je l'ai senti. C'est qui es-tu, je ne sais pas. Qui es-tu, je ne te vois pas. Qui es-tu, je ne sais pas. Ce qui me dérange, c'est pas ton ego. Mais quand ça parle, j'y nevo. Là, tu sais dire t'es qui est-o. Mon âme, mi âme. Ce qui me dérange, c'est pas ton ego. Mais quand ça parle, j'y nevo. Là, tu sais dire t'es qui est-o. Mon âme, mi âme.
This is my new song, Disease.